centre de David Global.
Cet après-midi, j'aimerais revenir donc sur l'enseignement que nous avons déjà commencé à voir depuis la fois dernière. Dieu donc était en train de nous parler sur la vie de Élie. Élie, le prophète. Élie, équipé par Dieu. Et la parole de Dieu dit dans le livre de Malachie, avant le retour glorieux du Fils de l'homme, j'enverrai Élie les prophètes. Il ramènera les cœurs de père vers le fils et ceux de fils vers le père. Nous voyons que Élie fait son entrée dans les affaires du royaume au moment où il y avait un roi méchant sur la terre avec une femme méchante. Et ce roi s'appelait Akab et sa femme s'appelait Jézabel, de triste mémoire. Une femme méchante qui n'avait qu'une seule obsession, tuer les prophètes envoyés par Dieu. Qui n'avait qu'une seule vision, finir avec la voix prophétique de Dieu sur la terre. Cette dame était fille d'un féticheur étranger. En clair, le roi Akab avait doublement péché. Elle est allée chercher une femme étrangère, contrairement à la pensée de Dieu, et par la suite, elle s'est mise non pas simplement avec une étrangère, elle s'est mise avec la fille d'un féticheur. Il s'est enroulé dans une forme de malédiction qui avait une racine pivotante bien longue. Il s'est noué avec le royaume satanique, les pouvoirs démoniaques. Pendant qu'il était affairé dans les affaires de ténèbres, elle, ou lui, le roi, avec sa femme, dans 1 Roi chapitre 17, verset 1, apparut un puissant serviteur de Dieu du nom de Élie. Un prophète nommé Élie, originaire de la ville de Tibé en Galade, vint dire au roi Akab, « Aussi vrai que l'Éternel est Dieu d'Israël que je sers est vivant, il n'y aura ces prochaines années ni rosée ni pluie, sauf si je parlais ou je disais le contraire. » Élie donc se pointe devant l'adversité avec comme point de départ la présence de Dieu dans sa vie, sa proximité avec Dieu. Nous sommes restés dessus pendant un long moment la fois dernière. La proximité avec Dieu ôte la crainte des hommes. La proximité avec Dieu est un gage pour lutter contre les puissances sataniques. Lorsque vous approchez d'un mouvement spirituel, ou si vous avez certains membres de votre famille qui se sont isolés de leurs parents, de leurs enfants, de leurs frères, de leurs tantes, de leurs oncles, de leurs cousins, même des fois de leurs propres enfants, à cause d'un pseudo-Dieu, rappelez-vous que cette proximité avec ce Dieu n'est pas authentique. L'amour de Dieu, la religion saine est celle qui consiste à aimer son prochain comme soi-même et à faire du bien aux autres. Et non pas à priver son père, sa mère, sa tante, son neveu, son cousin de ses biens sous prétexte qu'ils sont animés de puissance satanique. Si je lui fais cadeau d'une chemise, ils finiront par m'avoir spirituellement. On devait se poser la question, qui des deux est plus puissant que l'autre? Le Dieu près de qui nous servons, nous nous tenons, nous donne autorité sur les pouvoirs du diable. Lorsque je parle avec des personnes qui craignent leurs oncles, leurs tantes, leurs neveux ou encore ont des appréhensions par rapport à la sorcellerie familiale, je leur dis simplement, regardez nos vies, la vie de certains d'entre nous qui voyageons, allons à gauche et à droite, aux Antilles, en Afrique, en Asie, en Amérique, en Australie et dans tous ces coins du monde pour servir Dieu. Dites-vous, chaque fois que nous entrons dans un nouveau territoire, dans une nouvelle culture, nous confrontons différentes sortes de démons de sorcellerie. Et malgré cela, le docteur Woodruff est toujours vivant. En clair, je veux simplement dire que ceux qui bougent et qui vont ça et là servant Dieu sont plus exposés que vous qui n'êtes exposés qu'à une seule dimension de sorcellerie, celle de ta famille. En clair, tu n'as pas le droit à craindre quoi que ce soit ou qui que ce soit spirituellement. Nous sommes fils et filles de Dieu. Et par conséquent, notre fonctionnement avec le Seigneur devait être celle qui nous donne ou celui qui nous donne le poids, la force, la conviction et la détermination devant toute adversité. Pas seulement sorcellerique, même tous ceux qui se fomentent professionnellement autour de toi. Toutes ces personnes qui cherchent à te créer des ennuis pour que tu sois éjecté. La Bible dit, ils te feront la guerre, ils ne réussiront pas. L'Éternel combattra pour nous, dit le livre de Exode, chapitre 14, verset 14. Élie, rappelez-vous, était un homme de la même nature que vous et moi. Nous allons voir ça tout à l'heure. En clair, Dieu est en train de dire, ce que vous avez vu fonctionner chez Élie, je le mets aujourd'hui à votre disposition. La seule chose qui vous permettra de fonctionner comme lui, c'est de croire en ce que moi, Éternel, votre Dieu, vous dit. C'est un temps nouveau où notre croyance en Dieu doit être quelque part galvanisée par la compréhension de la parole de Dieu. Élie se pointe devant un roi méchant qui avait l'autorité et le pouvoir de arrêter sa vie et de le jeter en prison, encore le tuer illico presto. Mais la force de sa détermination, encore de tout ce qui pouvait sortir de sa bouche, était cachée derrière le fait qu'il avait une architecture spirituelle autre que ce que l'œil humain pouvait voir. Dans le naturel, les gens pouvaient voir Akab monter sur des chevaux, avec des chefs d'état-major, avec des armes à gauche et à droite, avec un pauvre petit jeune homme ou un pauvre petit monsieur appelé Élie, sans défense physique, sans armes, sans arche, sans flèche, sans fusil. Si vous regardez dans le naturel, vous aurez peur de tout ce qui vous assaille, spirituellement, affectivement, financièrement, professionnellement, scolairement, académiquement parlant, vous allez vous mettre devant des réalités qui ressembleront à des véritables murailles infranchissables. Mais nous devons voir au-delà de ce que les yeux voient. Aucune matière ne peut être comprise ou comprise, pardon, par un élève, par un étudiant ou encore par un collégien. Ce qui semble être infranchissable, que tu ne peux percer ni maîtriser par tes compétences intellectuelles, l'Éternel Dieu dans les cieux te dit que ces matières n'ont jamais été faites pour des robots, ça a été fait pour des hommes. S'il y a des gens qui dans ces matières peuvent réussir, pourquoi pas toi, fils de Dieu, fille du Seigneur, et de surcroît servante ou serviteur de Dieu? L'Éternel notre Dieu nous dit, la proximité avec lui est une clé qui ouvrira toutes les portes. Dites Amen. C'est donc la proximité avec Dieu qui doit être notre premier souci. Cherchez premièrement l'Éternel, votre Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Je ne suis pas en train de dire que vous devez être à l'église de lundi à dimanche et par la suite aller faire vos examens sans réviser. Je ne parle pas de cette chrétienté d'à peu près. Je parle d'un amour sincère avec Dieu qui n'annule pas vos efforts à réviser, à travailler, à chercher des infos et à perfectionner vos compétences dans telle ou telle autre matière. Je suis simplement en train de dire que la première de place dans notre cœur doit être occupée par celui qui devait être mis dans la liste de priorités en haut, c'est-à-dire Dieu. L'Éternel Dieu, devant qui je me tiens, me donne le droit de parler, de décréter, de diriger, de dire des choses que je suis en train de dire. Et je sais que mon Dieu défendra ma cause, pouvait penser d'ailleurs Élie. Et la clé ici, comme je disais tout à l'heure, c'est l'Éternel Dieu devant qui je me tiens. Et c'est de cette manière qu'Élie va entrer dans l'histoire d'Israël, jusqu'à devenir les grands prophètes que nous connaissons aujourd'hui. Sa carte de visite, c'était « Je me tiens devant un Dieu infranchissable. Je me tiens devant un Dieu puissant. Je me tiens devant un Dieu qui est fort. Je me tiens devant un Dieu qui, lorsqu'il dit une chose, la chose s'accomplira. Je me tiens devant un Dieu pour qui rien n'est impossible. » Et ce grand Dieu devant qui je me tiens est venu élire domicile dans mon cœur. Dans mon cœur. Ici, Akab ne démontrait pas une forme de rébellion quelconque vis-à-vis du gouvernement, vis-à-vis de l'autorité. Il était en train de juxtaposer cette autorité humaine qui était en train de faire du mal au lieu de faire du bien à l'autorité divine qui, elle, est au-dessus de tout. Par cette phrase, Élie était en train de nous montrer ici qu'il a transcendé certaines réalités. Il ne pouvait pas être saisi ni tenu ou encore guidé ou écrasé par les circonstances de la terre. La vie n'avait pas le pouvoir sur lui, moins encore la mort. La vie humaine, les réalités humaines n'avaient pas le pouvoir sur lui. Dieu dit, avant le retour du Fils de l'homme, le retour de Jésus, il répandra l'esprit de Élie sur la terre. Ce qui veut dire, pour nous fils et filles du temps de la fin, l'esprit d'Élie est disponible. Ce n'est pas que Dieu va susciter un seul Élie. Comprenez bien ce que je dis ici. Dieu va faire en sorte que l'esprit qui était en Élie puisse être distribué dans un groupe d'hommes et de femmes. Et nous pouvons donc dire aujourd'hui que nous sommes ces groupes dont Dieu parlait. Nous vivons dans les temps de la fin et nous pouvons donc dire que ce qui a été donné à l'ancien prophète de l'Ancien Testament est aujourd'hui disponible pour nous. Et nous devons donc regarder à travers les lunettes de la parole de Dieu, à travers la pensée de Dieu, pour voir et regarder dans l'architecture spirituelle, l'architecture, la forme des choses qu'Élie voyait, pour déclarer la parole, pour libérer la parole qu'il a libérée devant le roi, sont donc les choses que nos yeux spirituels doivent aujourd'hui voir. Et ce sont donc la vue de ces choses spirituelles qui te donnera l'assurance que ton entourage ne pourra pas comprendre. Les paroles positives de la foi, que d'aucuns pourront appeler la folie, que personne ne pourra comprendre, seul toi et ton Dieu pourraient comprendre. Jésus pouvait donc regarder les gens dans son entourage et dire, pensez-vous que je ne peux pas me défendre? Je peux inviter des anges pour venir ici et me défendre. Mais je ne vais pas le faire, je vais laisser que la volonté de Dieu s'efface lorsqu'on est venu l'arrêter. Pour dire une telle chose, il faut avoir une vue claire des arrangements spirituels. Jésus savait dans quelle chambre dormaient les anges les plus brutaux, les plus rapides, les plus puissants. Et il connaissait les codes pour déverrouiller la porte qui menait dans les couloirs qui menaient vers leur chambre. Mais il s'est dit simplement, je ne vais pas le réveiller, je ne vais pas le bousculer, je ne vais pas les contraindre à descendre ici. Parce que dans ces moments-ci, la seule chose à faire, c'est de me laisser aller, monter jusqu'à la croix, être cloué, maltraité, traité comme un malfrat. Si je fais le contraire en utilisant mon autorité, ce serait une autorité abusive, faite à contre-temps, et par conséquent, le Seigneur me mettra de côté. La précision spirituelle et prophétique est due, est causée plutôt par la vue dans les domaines élevés. L'incapacité de voir dans cette dimension de l'invisible va nous empêcher d'être autoritaires selon Dieu. Mais si nous sommes capables de voir dans l'invisible avec les yeux spirituels, cela va nous procurer la force, l'autorité sur le pouvoir humain. Cela peut être interprété comme folie par des gens. Mais cela n'est pas folie pour Dieu. Et c'est ce qui arrive lorsque les gens ne comprennent pas pourquoi est-ce que vous restez fidèle, loyal. Vous ne faites pas comme tous les autres jeunes doivent faire à votre âge. Vous ne vivez pas comme tout le monde devait vivre. Vous ne sortez pas comme tout le monde devait sortir. Les gens vont vous dire, mais profitez de la vie. Au fait, nous n'avons pas la même vision. Allez-y, détruisez votre vie. Nous nous donnons rendez-vous dans 5 et dans 10 ans. Tout est question de qu'est-ce que tu as vu. Tout est question de qu'est-ce que tu as perçu. Et lorsque tu as vu dans les domaines élevés, la proximité avec Dieu te donnera l'autorité dans le couloir ou encore dans la cour de la récré pour dire à une personne qui fume, moi je ne fume pas. L'autorité que tu as pour transcender l'intimidation des gens vient de ta proximité avec Dieu est attaché à la vue que tu as dans les domaines spirituels qui te donne une vision anticipative. Pendant que tout le monde te disperse, non, moi j'ai des objectifs et je ne pars pas. Faites tout ce que vous voulez. On saura qui avait raison dans 10 ans. Quand vous allez vous retrouver à aller pointer, je ne sais pas moi, dans quel truc, parce que vous n'avez pas d'emploi, nous qui aurons été serrés dans les études, nous nous retrouverons dans des bureaux bien chauffés, plutôt bien frais. Parce que vous pouvez vous rendre compte que dans 10-15 ans, le réchauffement climatique va faire encore un bond vers l'avant. Vous serez des videurs. Vous allez travailler à la réception en bas. Non pas comme un réceptionniste, mais comme quelqu'un qui se met devant comme un portier. Moi, je serai au 4e étage du bureau, dans un bureau climatisé. Qu'est-ce qui fera que toi, tu restes en bas pour faire entrer les gens avec un badge écrit contrôleur? C'est parce que toi, tu n'as pas eu de vision. C'est parce que l'autre a eu la vision. Vous, jeunes enfants, vous entendrez souvent vos parents dire, si nous on écoutait ce que vous écoutez aujourd'hui, nous ne savons pas où nous sommes. Cette déclaration veut simplement dire qu'à leur époque, il y a eu lacune et manque des ressources que nous et vous avons aujourd'hui. Cette déclaration peut aussi dire qu'à votre âge, nous n'avions pas la vision que vous êtes censé avoir aujourd'hui en rapport avec ce que vous entendez. En clair, si je savais que mes actions d'il y a 20 ans allaient m'amener où je suis aujourd'hui, j'aurais emprunté un autre chemin. La Bible dit, par manque de vision, le peuple périt. Tu dois avoir une vision pour toi-même. Et en tant que parent, tu dois avoir une vision pour tes enfants. C'est ce qui te permet de leur permettre de faire certaines choses et c'est ce qui te permettra de les empêcher de faire certaines choses. Que ce soit les accords ou les interdits, tout ça s'appelle des murs que tu construis à gauche et à droite des enfants pour les canaliser et les guider dans une destination bien précise. Le Dieu devant qui je me tiens, en clair, je sais qui je sers. La position que j'occupe, ce n'est pas celle que vous voyez. Quand il parlait à Akab, on pouvait le retrouver sur une falaise ou encore sur une plaine. Mais lorsque Élie dit « le Dieu devant qui je me tiens », il ne parle pas du beau palais d'Akab où il pouvait se trouver en délivrant cette parole. Il ne parle pas de la plaine où il pouvait se trouver quand il libérait ses paroles. Il parle d'une position que les gens de son entourage ne voyaient pas. Cette position n'était pas celle qu'il avait quand il parlait, parce qu'il était sur la terre. Il parlait d'une position qu'il occupe aux côtés de Dieu dans les domaines élevés. Et c'est ce qui lui donne l'autorité sur la terre. La position, la proximité avec Dieu t'empêchera d'avoir peur des gens. T'amènera à dire non là où il faut dire non à la corruption, oui là où il faut dire oui, sans craindre qui que ce soit. Nous avons vu que Élie avait l'autorité sur l'espace et sur les temps selon le livre de 1 Roi chapitre 18 verset 13 à 14. Élie pouvait disparaître après avoir fait deux, trois choses ou accompli une mission. Et c'est ce que nous voyons, non seulement il avait l'autorité sur les temps, et il avait le pouvoir sur l'espace. Cette dimension de Dieu est en train d'être donnée en clair. Notre autorité ne se limite pas à un environnement restreint à ta maison. Ton autorité s'élargit, ton pouvoir s'élargit, et la capacité que Dieu te donne va transcender les temps. Tu ne seras pas puissant ni fort, ni encore habile que pendant un temps limité. Le Seigneur va élastifier ta capacité à les plaire, ta capacité à l'adorer, ta capacité à marcher dans l'obéissance, dans la soumission et dans la loyauté. Il est question ici de rester loyal année après année, semaine après semaine, mois après mois. Et ce, dans tous les domaines, y compris dans les domaines les plus petits. Non seulement Élie avait le pouvoir sur les temps, et sur l'espace, il avait le pouvoir sur l'espionnage gouvernemental dans le livre de 1 Roi, chapitre 18, verset 10 à 11. Il est dit, on le chercha partout, même à l'étranger, parce que le roi et sa femme voulaient le tuer. Au point que le roi Akab intimidait même les nations étrangères et le poussait à jurer si Élie n'était pas passé par eux. En clair, on a mis en place tout l'arsenal de l'espionnage de tout un État. Une chasse à l'homme avait été orchestrée. Mais personne ne pouvait le voir. Incognito. Comme la parole de Dieu dit, l'oiseau ne laisse pas les traces dans les airs en volant. Et la réalité de l'esprit, c'est que cet homme n'était pas perceptible dans les radars sataniques. Ils chercheront à faire la guerre avec toi ou contre toi, ils ne te trouveront pas. Toutes les armes dirigées contre toi, tirer, que ce soit physiquement, humainement, spirituellement, seront sans effet. Oh non, on m'a tiré des balles spirituelles ou des balles sorcelleriques, ça n'atteindra personne. Personne ne peut te repérer dans les radars du diable. Ils voleront, ils feront toutes les incantations qu'ils veulent, ils ne t'atteindront pas. Si tu as été atteint dans le passé avant de poser tes pieds dans la maison de Dieu, ces liens seront coupés dans la puissance du nom de Jésus. Il est déjà question que chacun de nous fasse un exercice pour sortir de toute mentalité que tu es maudit. Personne ne peut fomenter des tournures magiques, sataniques, au point que celles-ci puissent t'atteindre. Ça ne touchera personne. La Bible dit qu'Élie était à 50 km de la maison d'Akab, Mais Akab ne pouvait pas le voir. Dieu nous rend invisibles dans les mondes sataniques. Dieu nous rend insaisissables dans les mondes de tous ceux qui fomentent des plans contre nous. Mais nous avons aussi la responsabilité de rester invisibles. Si vous tapez sur YouTube, vous ne trouverez pas les enseignements du docteur Odouf dedans. 2, 3, 4, 5, 6, 7, quelque chose comme ça. En clair, cette notion d'invisible veut dire, en tant que fils de Dieu, vous devez être sobre, simple. Vous ne devez pas tousser et prendre tout de suite une photo de vous tousser, vous mettez sur tous les réseaux sociaux. Vous êtes hautain, orgueilleux. Quand vous achetez une paire de chaussettes, vous devez exhiber la griffe de votre paire de chaussures sur Facebook, sur YouTube, sur Twitter, sur toutes ces histoires. Soyez effacés. Sortez de la mentalité du mativisme, applaudimètre. Une petite, je sais pas moi, un petit mouvement YouTube. Un petit mouvement Twitter. Vous avez acheté un sac Dior à Paris, Twitter. Toute votre vie est nue. Tout le monde sait ce que vous faites. Et vous, les jours où on a besoin de vous attraper, on vous attrapera comme une petite mouche. Mouche encore peut voler et disparaître. Libellule. Facilement attrapable. Vous laissez tellement de traces. Et quelles traces? Des bêtises dans les réseaux sociaux. Vous envoyez des photos de vous à demi, moitié nu ou nu, je ne sais pas moi, ou nu sur les épaules. Disparaissez. Dis à ton voisin, disparaît. 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 Vous êtes trop visible. Trop orgueilleux, trop excentrique, trop voyant. Vous voulez que tout ce que vous pouvez faire, tout le monde doit savoir. Vous avez une carence d'affection. Et vous retrouvez vos affections. Vous voulez qu'on vous fasse les offrandes d'affection. Et les offrandes d'affection que vous, derrière lesquelles vous courez, ce sont les likes. 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 Et nous sommes en train de vivre dans une génération qui psychologiquement est faible. Des enfants qui n'ont jamais été embrassés par leurs parents. Et par manque de cette affection, ils cherchent l'affection chez monsieur, madame, tout le monde. Et vous avez ici des papas qui n'ont jamais serré leurs enfants dans leurs bras. Des Africains, des terroirs, des villageois. Il n'a jamais dit à son fils ou à sa fille, « Ma fille, je t'aime, je t'apprécie. » Et ces manques-là dans les cœurs de vos enfants, ils vont chercher dans le like. C'est-à-dire, d'une certaine manière, vous êtes complice de ce qui arrive dans la vie de vos enfants. En fait, on parle ici d'une identité fracturée. D'une identité fragile. Je pense que nous tous ici, nous avons au moins regardé un bout d'un documentaire où vous avez un tueur en série qui vous dit « Je suis devenu tueur en série parce que ma maman ne m'a jamais donné de l'affection. » Et certains d'entre nous, nous les sommes spirituellement ici. Comment vous m'expliquez ces choses qu'on dit depuis 25 ans? Tu as des enfants majeurs, tu as une fille majeure, tu n'as jamais eu un moment de tête à tête avec ta fille de plus de 20 ans. Toi, papa. Toi, papa, toi, t'as jamais pris le temps avec ton fils qui a la barbe qui commence à dépasser les niveaux de menton pour te balader avec lui dans les rues de, je ne sais pas moi, Genève. Tout un tas de trucs qui ont construit des identités fracturées. Ce qui fait que nous avons donné naissance à une génération qui court après les likes. Qui court après les likes. L'affection électronique. Numérique, disparaissez, devenez invisible, vous êtes trop voyant, orgueilleux, prétentieux, vous voulez être vu, acclamé par les hommes. Un petit rien, post-it, un petit rien, post-it. La Bible dit, les gars étaient au-dessus de tout ça. Ça c'est la dimension d'Élie, la dimension d'Élie. Et je suis même sidéré de voir quelques likes de quelques personnes que tu crois être matures. Ils likent des bêtises des membres de leur famille, cousins, neveux, enfants, papa, maman. Ton enfant qui est mal habillé, qui est en train de fumer la chiche, à toi tu likes. Permettez-moi ce terme, une idiotie d'un autre âge. Ce sont des choses qui piquent dans le cœur. Les pouvoirs d'Élie, il avait le pouvoir sur les limitations physiques. Il est dit dans le livre de 1 Roi 18, verset 46, « Rempli des forces par l'Éternel, Élie serra la ceinture autour des reins et courut devant les chars du roi Achab jusqu'à l'entrée de Jizréel. 1 Roi 19, verset 8, il est dit: Il s'éleva, mangea et but, puis fortifié par cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne du Dieu d'Horeb. En clair, Élie avait été régénéré par Dieu. Dieu lui a donné des compétences, des capacités au-dessus de la moyenne. Il a couru plus de 25 kilomètres, plus vite que les chars royaux. Comprenez que quand on parle des chars, des chevaux du roi, ce sont des chevaux entraînés plus que les chevaux que vous connaissez. Parce qu'ils mangent déjà mieux que les chevaux de quiconque dans le royaume. Si vous allez à Versailles, en face de Versailles, il y a INSA Versailles, une grande école d'architecture à Paris. Et cette école d'architecture est logée dans des bâtiments où l'on entraînait et on gardait les chevaux de Louis XIV. Vous comprenez que le cheval de Louis XIV ne mange pas comme les chevaux de ses serviteurs, ni les chevaux qui sont dans la cité, à la cité, etc., etc. Entraînés, surentraînés. Quand vous regardez les défilés du 14 juillet en France, le moment que j'apprécie, c'est les défilés des équipes ou encore des militaires montés sur les chevaux. Regardez la majesté dans le pas cadencé ou dans le rythme des chevaux pour vous donner une idée des temps investis pour entraîner ces chevaux. Quand on parle de chevaux du roi, je vous parle ici des chevaux surentraînés, doués, compétents, rapides, intrépides. Et l'autre prophète ici a été régénéré par Dieu. La grâce de Élie, la dimension de Élie, c'est celle qui vient dans la vie de chacun d'entre nous. Être plus puissant, plus fort, plus rapide. En clair, tu ne peux pas faire partie de la génération du temps de la fin et être un véritable paresseux. Ici, je parle à toutes les dames qui sont éternellement fatiguées. Et je parle à tous les éternellement fatigués. Si vous ne voulez pas vous fatiguer, il ne fallait pas avoir d'enfant. Vous allez comprendre, même si vous n'avez pas d'enfant, vous êtes toujours... En fait, la fatigue, c'est question de ce que toi-même tu veux mettre dans ta tête. Je ne dis pas que les corps ne se fatiguent pas. Mais je dis qu'on peut transcender la fatigue et faire ce qu'on doit faire quand on gère bien son temps et on gère bien sa fatigue. Tout est question de comment on se dépense. Tout est question de priorité. Parce que malgré la fatigue, peu importe la fatigue, personne ne monte dormir dans son lit avec son manteau, avec ses godasses qui sont complètement remplies et entourées par la boue. Personne ne fait ça. Tu as toujours le temps de te déchausser. Tu as le temps d'enlever ton manteau. Et tu as le temps d'entrer sous ta couette. Si tu es fatigué, alors plus que fatigué que tout le monde, monte dans ton lit avec tes chaussures, avec ton manteau et ne te mets même pas sous la couverture, dors sur la couverture. Je suis simplement en train de dire que ce n'est pas les corps qui devaient ordonner ton esprit. C'est ta pensée qui devait dicter ton corps. Parce qu'à certains égards, la fatigue est une utopie. Et nous exagérons certaines fatigues qui pour les autres n'est même pas fatigue. Personne ici n'a une journée de 26 heures. Nous tous, nous avons une journée de 24 heures. Et c'est dans les 24 heures qu'on s'organise à faire ce qu'on doit faire. J'aimerais que les mots fatigue disparaissent de la bouche de certains. Parce que ces mots fatigue cachent votre paresse, rien d'autre. Parce que vous n'avez pas voulu aller au-delà. Et c'est Dieu qui promet ici en disant, la génération de Élie sera composée des hommes rapides et non pas paresseux. Non pas de ceux, on envoie un email, il lit après 10 jours, après 20 jours. On atteint un rapport, on le reçoit après 2 mois. Si nous ne régulons pas cette paresse, nous n'irons nulle part. Pour réussir dans les études, il faut sortir de la paresse et de la procrastination. Revêtez-vous de l'esprit, des mentalités de Élie. Vous venez de sortir de vos cours à 18h, prenez le temps de vous reposer, de vous ressourcer, de prendre votre douche pour vous rafraîchir, rafraîchir votre cerveau, attaquer la chose. Posez-vous la question et dites-vous, il y a des gens qui travaillent plus que moi et ils ne sont pas morts. Si vous avez une carence et que vous savez que vous êtes en retard par rapport au niveau des élèves dans ta classe, dis-toi que tu dois travailler deux fois, trois fois plus qu'eux. Qui sont paresseux? Ce sont ceux qui se sont jamais donné la peine d'être sous une pression. Les refus d'être sous une pression vous amènent à atterrir dans la paresse. Vous pensez qu'une personne est ingénieur? Il n'est pas ingénieur parce qu'il a dormi toute sa vie, parce qu'il a été mis sous la pression des exercices qui ont bougé sa tête. D'un temps court où il lui fallait une réflexion rapide et précise parce qu'on attend un ingénieur sur une plateforme où il n'aura pas droit à l'erreur, parce qu'il tuera les gens. Cette pression, cette oppression va t'arracher du temps de te défouler, de prendre le temps pour toi. Tu n'as pas le temps pour toi. Ton temps est géré par les conditions, les objectifs qui se mettent devant toi. Voici la réalité que nous devons accepter. Tout celui qui refuse la pression des exigences qui se mettent devant lui embrasse la paresse. La paresse, c'est quoi? C'est refuser d'être sous des contraintes. Tu n'aimes pas qu'on bouscule ton lieu de confort. Tu n'aimes pas qu'on bouscule ton monde à toi. C'est-à-dire, tu es dans une bulle. Tu as fabriqué une bulle dans laquelle tu veux être. Et personne ne doit bouger ça. Tu ne seras pas ingénieur avec ça. La réalité, c'est ça qu'il faut briser. C'est ça qu'il faut briser. Notre modèle, Élie, avait un esprit, une pensée, un fonctionnement, une attitude. Comment est-ce que nous entrons dans cette dimension? En ne laissant pas dormir des emails, des SMS ou encore des messages qui nous sont envoyés. En développant ce qu'on appelle une curiosité intellectuelle. Quand une chose entre dans ton domaine, que ce soit WhatsApp, que ce soit Twitter, que ce soit email, que ce soit venant de l'école de tes enfants, tu ne dois pas dire j'aurai mon temps pour le lire. Je connais une personne, un chef d'entreprise. Voici ce qu'était son fonctionnement. Tous les jours, quand il arrive au bureau, il passe ses 2 premières heures à lire tous les emails qu'il reçoit. Là, vous parlez des hommes éventuellement qui en reçoivent des dizaines, des centaines par jour. Il passe les 2 premières heures à être mis à jour de tous les emails qui sont entrés depuis le moment où il est allé mettre sa tête au lit. Et c'est la réalité de la vie de beaucoup d'entre nous qui sont leaders ici, qui sont dans tel groupe de croissance, tel groupe de personnes, qui dirigent les congrès, qui dirigent telle autre réalité, qui ont des enfants à conduire, à accompagner, à guider, à diriger, à encourager et à surveiller. En dehors de la maison, tout comme à la maison, avec 24 heures. Avec 24 heures. Et ressemblant à des pieuvres. Pieuvre, c'est un animal avec plusieurs bras. C'est-à-dire, tu es obligé de travailler sur plusieurs tableaux et vous devez vous surpasser. Si vous n'avez pas la capacité de travailler sur 2 dossiers au même moment, dites-vous que c'est votre défi futur. Lorsque vous aurez maîtrisé de travailler sur 2 dossiers, passez à 3 dossiers, passez à 4, développez votre capacité en montant et non pas en baissant, en descendant. Accepter les défis, accepter d'être façonné par les défis et non pas que les défis se soumettent à votre petite bulle. Voici comment on sort de la paresse. Voici comment on sort de la paresse. Lors de la classe d'apprentissage, on a enseigné, encouragé aux jeunes, quand vous rentrez à l'école, faites des fiches et révisez vos matières du jour. Empêchez les cumuls de matières. Vous aurez peu de temps et des fois pas le temps pour préparer l'examen. Vous retrouvez avec 700 feuilles et vous devez faire des fiches sur une matière à 700, avec 700 feuilles. Et le temps ne vous attend pas. Si tous les jours vous faites vos fiches, tous les jours, quand le chapitre est fini, vous rangez les fiches de ces chapitres. Lorsqu'on va vous indiquer qu'il y aura une interro, un examen, vous allez simplement retrouver les fiches que vous avez faites de manière journalière, lire votre cours et vous serez en avance. Vous allez compléter vos fiches avec votre nouvelle lecture, mais vous n'allez pas tout refaire et perdre le temps et être sous le stress en dernière minute. Et l'expérience montre que les examens préparés à la hâte, à la dernière minute, vous ne réussissez pas. Parce que vous n'avez pas de racines. Vous vous trompez à vous-même. Et cette réalité veut que vous acceptiez la pression du monde. Depuis les jours que vous êtes sorti des seins maternels, vous avez fait votre cri, poussé votre cri de bébé. Le monde vous a dit, soyez les bienvenus dans le monde à pression. Vous n'aurez pas un jour où vous aurez toute la paix du monde sans problème. Si ça vous arrive, sachez que vous êtes déjà mort. Si vous ne savez pas que ce que vous vivez là, La paix là, tout est calme. C'est que vous êtes déjà mort, mais vous n'êtes pas au courant. Même au ciel, il n'y aura pas de paix. Vous savez, non? Au ciel, on va adorer. Qui pense qu'élever les mains comme ça, c'est une chose aisée? Non, c'est comme une forme de punition. À la seule différence, que vous n'aurez pas mal. Mais nous serons toutefois les mains levées, adorant, louant, célébrant le Seigneur en activité. Votre vie a été faite pour être en activité. Lorsque le corps s'assoit quelque part, n'est plus en mouvement, il attire des maladies et va sortir des maladies. C'est la raison pour laquelle, lorsque les personnes commencent leur retraite, l'expérience de vie pour la plupart ne dépasse pas 10 ans. Les manques d'activité tuent. Dieu a créé l'homme pour qu'il soit en activité. Et votre cerveau continuera éventuellement à fonctionner et à garder votre santé en bonne santé parce que vous travaillez. On dit que pour éviter les maladies des cerveaux et par conséquent la mort, quand votre âge commence à grimper, apprenez une nouvelle langue. Commencez à mémoriser de nouveaux vocabulaires, que ce soit en français et tout. Ça permet à travailler votre cerveau et à repousser à plus tard l'esprit cadavérique. Tout cela montre quelque part que travailler est une bonne chose. Ne vous plaignez pas parce qu'on vous donne du travail. Réjouissez-vous parce que ça vous maintient en vie. Et la parole de Dieu parle de ceux qui sont confortablement assis à Sion, que Dieu n'encourage pas, bien sûr. Dieu n'aime pas les paresseux. Les limitations physiques, dépassez-le dans votre niveau académique, spirituel, et même vous en tant que père et mère. Mettez-vous dans un ordre où vous commencerez à laver votre maison à fond toutes les semaines, et non pas tous les 6 mois. Sortez de la vie où vous portez des habits non repassés et vous cherchez à les repasser en les serrant sur vous. Non. Brossez-vous 2 fois par jour. Sortez de la paresse hygiénique. Entrez dans un nouveau domaine avec Dieu. Voici ce que Dieu attend de vous. Faites-vous violence. Sortez de votre prison. Allez découvrir d'autres horizons et allez découvrir d'autres frontières. Sortez de la paresse, sortez de la paresse, sortez de la paresse. Que ce soit la paresse intellectuelle, la paresse hygiénique, la paresse spirituelle, de quel ordre qu'il soit, sortez dedans, sortez de là. Et c'est ce qui nous attend ici avec la dimension d'Élie. Avec la dimension d'Élie. Des pouvoirs sur les limitations physiques. Commencez à prendre votre douche tous les jours, 2 fois par jour, matin et soir. Pendant la journée, votre corps sécrète beaucoup de microbes. Mettez ça en tête. Surpassez votre paresse. Brisez la cage dans laquelle on vous a mis prisonnier ou prisonnière. Allez découvrir d'autres horizons, car c'est là que Dieu vous attend. Le pouvoir sur les nationalismes. Luc chapitre 4, versets 25 à 27. La Bible dit qu'il y avait beaucoup de personnes qui étaient un problème dans les problèmes. Mais Dieu va envoyer Élie à Sarepta pour voir une veuve. Au jour d'Élisée, il y avait beaucoup de lépreux en Israël, mais Dieu va le envoyer vers Naaman qui était un étranger. L'esprit d'Élie nous met au-dessus de tout ce qui est tribalisme, népotisme, racisme et j'en passe. La mentalité d'Élie nous envoie à faire ce que Dieu veut où Dieu veut. Et la réalité ici, tu ne dois pas être bloqué ou verrouillé par une fausse compassion de la famille au détriment du royaume. C'est pourquoi je parlais de certaines personnes qui likent les bêtises de leurs enfants, de leurs fils, de leurs parents, de leurs mamans, parce qu'il y a un lien, des fibres. Et les fibres là, ce sont des fibres de famille. Ils n'ont plus la référence, la parole de Dieu. C'est parce que c'est mon père, c'est parce que c'est mon fils, c'est parce que c'est ma fille, même si elle prend du chicha. Les papas encouragent, la maman encourage. Vas-y, mon fils, tu iras trop loin. Avec la chicha dans les lèvres. En quelque sorte, nous sommes plus attachés au népotisme et à toutes ces réalités familiales qu'attachés au royaume de Dieu. L'esprit d'Élie, c'est un esprit qui n'est pas partisan. Élie pouvait s'éteindre devant n'importe qui et lui dire, voici ce que le Seigneur m'a dit, X, Y, Z. Le Dieu devant qui je me tiens, me sort de toute forme de piège lié à la chair, lié au favoritisme, à la race, à la tribu. J'appartiens d'abord à Dieu avant d'appartenir à mes enfants, avant d'appartenir à mon père, avant d'appartenir à ma mère. C'est pourquoi Jésus pouvait répondre à sa mère. Femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mes frères et mes sœurs sont ceux qui font la volonté de mon Père. Cela ne veut pas dire que j'aime pas mon Père. J'ai un profond respect pour lui. Tout ce que je suis, en une grande partie, en grande partie ce que je suis, je le dois à mon Père. Mais je sais faire la différence et je sais isoler la chose du royaume à la chose terrestre. Je ne peux pas être poussé par la chair. Non, sauf si cette chair s'aligne avec la volonté de Dieu. Jésus. Il va dans une fête où tout le monde boit, etc., etc. Et à un certain moment, il n'y a plus de boisson. Sa mère dit à ces gens qui étaient autour de lui, va lui dire, allez lui dire, allez lui dire. Il a le pouvoir, il a la puissance, il a l'onction, il a l'esprit. Il va transformer l'eau en vin. C'est la maman de Christ qui a poussé Jésus à ce premier miracle. Mais Jésus ne pouvait jamais laisser quelque chose venant de la terre influencer la volonté de Dieu et le mettre en porte-à-faux avec Dieu. C'est pourquoi je dis, sauf. Celle qui s'aligne avec la volonté de Dieu. Sauf. Il est donc temps pour nous de mûrir, de grandir et de sortir de tout ce qui est favoritisme dans notre Église. En fait, dans l'Église de Dieu, que ce soit en URSS ou en Ukraine, là où il y a la vraie culture du royaume. Si une Église a la culture du royaume en Ukraine, même si l'Ukraine est en guerre avec l'URSS, les membres russes qui sont dans cette Église d'Ukraine sont avant tout fils du royaume. Avant d'être ukrainien ou encore russe. Sauf si ce sont des espions qui vous veulent du mal. Vous devez traiter cette affaire d'une autre manière. Mais la réalité est celle-ci. Même si c'est une église russe en URSS, ou en Russie, pardon, l'URSS n'existe plus, et que dans cette église, il y a des Ukrainiens. La culture du royaume dominante à l'intérieur doit être au-dessus de ce que dit Poutine et Volodymyr, Vladimir et Volodymyr. Et c'est ça l'esprit de Dieu qui nous met au-dessus de l'attraction de la terre. Et c'est cet esprit que nous devons avoir parmi nous. Des hommes et des femmes qui ont une jugeote, un discernement spirituel qui leur mettent au-dessus de l'affection de leur enfant. C'est comme ça, vous voyez, dans certaines églises. Vous reprochez un enfant, sa maman gonfle. Vous reprochez un garçon, son papa tire la joue et puis commence à tirer le visage. Et vous comprenez par là simplement que l'accent est trop mis sur la chair et non pas sur la jugeote. Même quand l'enfant est fautif, même quand il est mis sous discipline pour son bien, là où la chair abonde, vous allez voir les transformations d'humeur de certaines personnes parce qu'ils sont encore plus terre que spirituels. Ils ne savent pas isoler la chose. Je peux mettre quelqu'un sous discipline, ou réprocher, réprimander quelqu'un, ça n'annule pas l'amour que j'ai pour la personne du tout. Non, du tout. Je peux punir en frappant un bâton ici, et je peux donner une carotte derrière. Je peux punir ici par une réprimande, mais je continue à courir pour ton bien, en me sacrifiant, que tu le saches ou pas. C'est ce que j'appelle savoir isoler la chose. C'est mettre au-dessus des pressions de la terre et appartenir au Dieu devant qui nous tenons. Élie, au-dessus du nationalisme, de l'ethnicisme, des cultures, des classes, des divisions, des séparations, des races et tout ce qui suit. Il ne doit pas y avoir une classe de personnes qui ont étudié, une classe de ceux qui n'ont pas étudié à l'église, des divisions entre ceux qui sont riches, ceux qui sont pauvres, entre ceux qui parlent bien français, ceux qui parlent pas bien français, entre ceux qui sont avancés, ceux qui sont pas avancés. Toutes ces choses doivent disparaître. C'est pourquoi la Bible dit, il enverra Élie les prophètes, il rabaissera les montagnes et élèvera les vallées. Il ramènera les cœurs de père vers le fils, des fils vers le père. Il y a une égalisation spirituelle qui doit prendre place avant que le Seigneur ne revienne. Il doit y avoir un rabais là où il y a élévation. Il doit y avoir une montée là où il y a baisse. Et ça, c'est le désir de notre Dieu, de notre roi. Il ne doit pas y avoir des séparations, des classes, des castes, etc., etc. Notre combat doit être de prendre ceux qui sont bas et les amener plus haut, là où il y a des gens plus élevés. Élie était au-dessus de la loi. 1 Roi 17, verset 21. Il n'était pas soumis à la loi juive, même si Dieu avait dit, tu ne pourras jamais toucher un mort. La Bible dit, Élisée est allé s'allonger sur un mort après une prière. L'enfant qui était mort est revenu à la vie. En clair, nous ne sommes pas liés aux lois raciales ou encore aux lois qui vient de notre ethnie. Oh non, moi, comme tu sais, je suis moutété là. Oh, chez nous, moi, je suis mon gars là. Quand ma fille se marie, il faut qu'il mange la tête d'une tortue. Mais ça va ta tête ou quoi? T'as déjà mangé la tête de la tortue? T'as vu comment c'est dégoulinant? Plus personne n'est sous la loi de quoi que ce soit, de qui que ce soit. Nous sommes sous la loi de Dieu. Élie, l'esprit d'Élie est un esprit qui est au-dessus de la loi. Vous n'avez pas besoin, lorsque vous perdez un mari ou une femme ou un parent, etc., etc., qu'on vous tourne autour du cercueil ou qu'on vous fasse asseoir par terre, on doit vous couper les cheveux ainsi que tous les poils du corps et après on doit vous faire boire je ne sais pas moi quoi. Vous faites pas ça. 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 On doit couper mes ongles pour les ramener dans la famille de mon mari comme il vient de mourir. On était un seul corps. Faites pas ça. Oh non, je dois jeter les lits sur lesquels je dormais. Faites pas ça. Oh non, je commence à avoir des songes. Mon mari qui est parti ou ma femme est morte, etc. Je dois appeler son père pour qu'il vienne parler des affaires. Faites pas. Si ma femme part, je vais chercher à rêver d'elle tous les jours. Et je vais dormir dans le même lit. Je vais manger avec les mêmes couverts. Qui vous a dit qu'un démon peut approcher un enfant de Dieu? Qui a dit ça? On a vu tout à l'heure plus haut que Élie avait un esprit et était animé d'un esprit qui ne pouvait pas les rendre perceptibles dans les radars du diable. Un démon ne peut jamais vous approcher, jamais. Jamais. Je vais vous faire une confidence. Même quand vous êtes dans le péché, le diable a peur de vous approcher. Notre Dieu est puissant et fort. Le diable vous approche quand vous pensez qu'il peut vous approcher. Au fait, la porte que vous l'ouvrez, ce sont vos pensées affaiblies, c'est tout. Ce sont vos pensées qui permettent à l'ennemi de prendre le dessus sur vous. Et c'est par la puissance de la parole que nos pensées s'affermissent. C'est alors que la bouche parle. Si tu crois dans ton cœur et tu confesses de ta bouche, tu seras sauvé. Quand la Bible parle du cœur là, il parle de la pensée. Quand la Bible dit « repentez-vous, changez », dans les jargons humains, on dit « change ton cœur ». Donne ton cœur à Dieu. Au fait, ce sont tes pensées que tu donnes à Dieu. Métanéo n'a rien à voir avec le cœur. Métanéo a à voir avec les pensées. Quand tu changes tes pensées, elles sont nourries par la parole de foi. Ça va te donner la force et la capacité de résister. Les diables ne peuvent plus pénétrer. La Bible dit, nous renversons tout pouvoir, toute autorité. Quand on parle des lieux élevés dans les corps humains, l'endroit le plus élevé, c'est la tête. Et c'est ce qui est dit dans le livre de 1 Corinthiens. Nous renversons toute autorité. Dans la structure humaine, ce qui est plus élevé, l'autorité se trouve ici. La tête, la tête, la tête, la tête, la tête. Nous ne devons pas être enroulés dans la loi juive. Et le dernier point que nous avons cité, que Élie a transcendé, sur lesquels il a dominé, c'était l'argent et la mort. Élie n'était pas enroulé dans le pouvoir de maman. Il n'était pas téléguidé par le pouvoir de l'argent. Nous devons donc nous libérer de cette forme d'esclavagisme financier qui t'empêche d'être généreux, de donner ta dîme, tes offrandes, tes dons, etc., etc. L'esprit d'Élie qui est répandu sur l'Église sortira déjà l'Église des manques de finances. Et l'Église sort des manques de finances pour se prendre en charge lorsque les fils et les filles de Dieu sont libérés de cet esprit de maman. Dieu, par Christ, a élevé maman au même niveau que Dieu. C'est ce que Jésus a dit dans le livre de Matthieu, chapitre 6, verset 24. Personne ne peut servir deux maîtres. C'est-à-dire, sur la terre, il y a deux maîtres. Il y a Dieu, le Dieu des cieux et de la terre, et il y a maman. Et Jésus dit, le pouvoir qu'a Dieu sur la vie des hommes pour qu'il soit adoré, loué, c'est le même pouvoir que dégage l'argent. Et les gens, donc, ont un choix entre maman et Dieu. Et nous avons vu et parlé dernièrement, que tout égoïsme et tout refus de s'allonger, de s'aligner sur Dieu, se cache derrière le pouvoir de maman. Tu as pris la résolution de donner ta vie à Dieu. Tu as même pris la décision de te faire baptiser. Mais lorsque tu prends la résolution de te faire baptiser, tu cherches à arranger d'autres réalités de ta vie. Entre autres, marcher dans une communauté où tu as choisi d'être nourri, accompagné, guidé, dirigé, est devenu ta maison et une de tes responsabilités en tant que membre d'une communauté, c'est adorer, louer, bénir le Seigneur, participer aux différentes rencontres, assister aux différentes rencontres, entre autres. aussi s'acquitter de ses droits. Si tu n'es pas français, tu n'habites pas ici, la France ne va pas t'amener à payer les impôts ici. Tu ne travailles pas ici, tu ne génères pas des impôts et tu n'as pas un foyer fiscal ici en France, ils ne vont pas te demander de payer les impôts. Et le comble de tout, c'est que les gens travaillent et trouvent logique éventuellement qu'on reçoive ou qu'on retienne leur impôt à la source, mais les gens ne sont pas capables, malgré la foi, malgré les baptêmes dans lesquels, les eaux de baptême dans lesquels ils sont passés, malgré les mariages et toute forme d'institution qu'ils ont accepté de mettre sous l'autorité de Dieu, ils restent ligotés par maman. Et maman leur donne toute forme de raisonnement et des raisons humaines pour ne jamais être en ordre avec ce que Dieu veut, ce que Dieu dit, ce que Dieu souhaite. Ils vont se mettre derrière tous les murs pour se cacher, derrière tous les rideaux, sauf s'aligner avec ce que Dieu dit. Il est donc important de comprendre que l'égoïsme se cache derrière maman et les raisonnements, les raisons se cachent derrière maman. Et le dernier point, c'était qu'il avait le pouvoir sur la mort. Au fait, tout ce que je viens de faire ici, c'était le récapitulatif de ce qui avait été dit dimanche dernier. Normalement, mon message aujourd'hui devait partir d'un autre point. Et le point qui devait être partagé est donc celui-ci. La dimension de Élie comme étant un modèle. Laissez-moi faire simplement la lecture. Élie est donc le modèle que nous devons suivre parce que la Bible dit, c'était un homme de la même nature que nous, un homme de la même nature donc que nous. Élie était donc futuriste, c'est ce que Jésus va nous révéler ici, ces trois aspects. Il était donc la promesse faite dans l'Ancien Testament, venue par Jean-Baptiste, et qui devait éventuellement diriger le cœur des hommes et des femmes vers le fonctionnement qui allait venir. Deuxième point, il est celui qui s'est levé contre tout ce qui est catastrophe, parce qu'il avait le mandat de restaurer toutes choses, reconstituer, reconfigurer, mettre en place les choses telles que cela avait été conçu par le divin architecte. Élie était destiné à changer non seulement la vie spirituelle, mais tous les aspects de la vie humaine. Et c'est d'ailleurs ça, la vraie signification de l'Église. Dans une Église, on ne devait pas seulement entrer et recevoir les versets bibliques et se préparer pour le ciel. Une Église, c'est l'environnement où les gens apprennent aussi à être propres, où les gens apprennent comment élever leurs enfants, où les gens apprennent comment éduquer leurs enfants, où on vous apprend même comment étudier, être efficace dans les domaines scolaires. Parce que Daniel avait l'intelligence 10 fois supérieure à ceux de son temps. Pareil pour Joseph. Et c'est donc la même dimension que nous voulons voir dans la vie des uns et des autres, surtout de nos jeunes ici à l'église, qu'ils soient à l'université, au collège ou encore au lycée. En clair, Dieu n'est pas unidimensionnel, Dieu est multidimensionnel. C'est pourquoi nous pouvons nous permettre de parler, de savoir s'habiller avec des vêtements repassés, avoir une hygiène buccale propre où on brosse ses dents le matin et le soir. Où on est propre et on ne dégage pas une odeur qui fait fuir les gens et qui fait que les gens puissent bloquer leur nez. Rappelez-vous, vous êtes les temples du Saint-Esprit. Et les temples du Saint-Esprit doivent être une référence en bien, bien sûr. Il est dit. Donc, Élie n'avait pas seulement ces deux composantes que nous avons vues, il avait aussi une dimension cosmique. Il restaurait toutes choses. Et c'est ce que Jésus avait dit. Élie devait venir et restaurer toutes choses. C'est ce qu'on appelle la vie holistique. Tu ne sais pas trop comment te mettre en ordre, tu apprends comment devenir ordonné, un homme ordonné, une femme ordonnée, un jeune ordonné. Dans tes finances, tu cherches à mettre de l'ordre, même si tu n'as pas de grandes entrées. L'ordre que tu mets avec les petites choses va t'accompagner lorsque tu auras des grandes choses. Ce que tu n'as pas appris avec le petit, tu ne pourras pas le vivre avec la grandeur, sauf si tu apprends avec Dieu. Élie avait vécu une dimension immortelle qui était palpable. Il est dit dans le livre de Jacques, chapitre 5, versets 17 et 18. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria le Seigneur avec insistance pour qu'il n'y ait pas de pluie pendant 3 ans et demi, et la pluie s'arrêta. Et quelques temps plus tard, il va prier et la pluie va descendre. Et c'est cet homme que nous voulons tous être aujourd'hui. Non pas comme un individu, mais comme un groupe. Des personnes qui vivent avec un Dieu extraordinaire tout en étant des personnes ordinaires. L'accès donc à cette vie puissante d'Élie que nous avons vue depuis dimanche passé, c'est caché derrière un seul élément, une obéissance radicale. Pour rentrer dans cette dimension, il y a une proximité avec Dieu qui doit être expérimentée. Regardez maintenant ces versets. Non seulement Élie était un homme qui avait une obéissance radicale, il a transmis la même obéissance à tous ceux qui l'approchaient. 1 roi 17, verset 22, verset 2 à 5, il est dit. Après cela, Élie dit, l'Éternel dit à Élie, quitte ces lieux et va vers l'Est et cache-toi dans les ravins des torrents des Kérites à l'Est du Jourdain. L'eau du torrent te servira de boisson et j'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir là-bas. Élie partit donc et fit ce que le Seigneur lui avait demandé. Il alla s'installer près du torrent des Kérites à l'Est du Jourdain. Remarquez une chose ici. Il va dans un endroit où il n'y a pas de cuisinier, où il n'y a pas de champs, où il n'y a pas d'animal, de brebis, de bœuf, etc., etc. Et Dieu lui dit, je vais envoyer des anges pour te nourrir. Il n'a jamais fait ça dans le passé pour que Élie dise, ah, Dieu a déjà fait ça dans le passé, donc il peut réitérer les mêmes exploits. Non, l'homme a une obéissance neutre, je dirais même vierge, sans compromis, sans résistance, sans question posée. Il est le précurseur de tous ceux qui ont cru sans avoir vu, comme Marie, qui avait dit, qui me soit fait selon ta volonté. Remarquez la flexibilité ici. Nous avons aujourd'hui beaucoup de gens, tu peux lui demander un truc, il a toujours un avis. Tu peux le conseiller dans un domaine, il a toujours un avis. Et là, tu réalises que ta dimension de la grâce apostolique ne peut pas atteindre tous les domaines de sa vie. Ça peut atteindre dans les domaines de versets bibliques, des enseignements, ça n'atteint jamais dans les domaines des gestions financières. Ça n'entre jamais dans la zone sentimentale. Ça rentre jamais dans la zone hygiénique. Ça rentre jamais dans la zone académique. Il a choisi un couloir où il permet à Dieu et aux leaders de lui parler, de lui conseiller. Et il a verrouillé les autres couloirs et les autres portes pour que personne ne lui dise rien. 1 roi 17, 8 à 10. Alors l'Éternel lui adressa la parole en ces termes. Mets-toi en route et va vers Sarepta dans le pays des Sidon et installe-toi là-bas. J'ai ordonné à une veuve de là-bas de pouvoir à ta nourriture. Élie s'est mis donc en route et s'est rendu à Sarepta. Un autre domaine de flexibilité sans résistance. 1 roi 18, 2, 1 et 2. Bien que les jours s'écoulèrent au cours de la troisième année de sécheresse, l'Éternel adressa la parole à Élie en ces termes. Va trouver Akab et je ferai pleuvoir sur le pays. Élie partit afin de rencontrer Akab. La vie d'Élie est imprégnée d'une obéissance simple et radicale. Il ne répondait pas à Dieu avec une liste d'options préférentielles lorsqu'il recevait des instructions. J'aime bien ça. Si tous les enfants pouvaient fonctionner comme ça avec leurs parents. Bien sûr, je parle des enfants têtus, rebelles, récalcitrants, à qui les parents conseillent les bonnes manières pour réviser, il ne faut qu'à leur tête. À qui les parents donnent de meilleurs conseils qui les auraient à leur âge. Si eux-mêmes, les parents, avaient vécu, connu cela, n'auraient pas la vie qu'ils ont ici. Mais les enfants pensent maîtriser le monde parce qu'ils maîtrisent Internet. Une obéissance simple, radicale, un haut niveau de confiance en la parole de Dieu. Il ne s'est contenté que d'une chose, obéir. Il était ensuite capable d'impacter tous ceux qui s'approchaient de lui par la même obéissance. Regardez dans la vie de la veuve. C'est la même chose qu'on va vivre ici. 1 roi 17, 13 à 16. Élie reprit, « Sois sans crainte, rentre, fais ce que tu as dit, seulement prépare-moi d'abord avec ce que tu as une petite miche de pain et apporte-la-moi. Ensuite, tu en feras pour toi et ton fils. Car voici ce que déclare l'Éternel, le Dieu d'Israël, les pots de la farine ne se videra pas. Et la jarre d'huile non plus, jusqu'au jour où l'Éternel fera pleuvoir sur le pays. La femme partit et fit ce que Élie lui avait demandé. Pendant longtemps, elle eut de quoi manger et sa famille ainsi que Élie. C'est la femme qui n'avait qu'un peu de farine et d'huile. Lorsque le prophète va lui demander de lui faire un gâteau, la femme va dire, mais nous n'avons rien, tout ce que nous avons, moi et mon enfant, si on mange ça, après on va mourir. Élie lui dit, va d'abord faire pour moi. Et après, on verra ce qu'il en sera de vous deux. La même foi, la même obéissance qu'avait Élie avait été celle découverte dans la vie de la femme. Élie l'avait impacté la même foi, la même obéissance, la même flexibilité. Sans résistance, la femme alla obéir. Oui, aujourd'hui, dans notre jargon, on dira Élie était un gourou. Comment il peut avoir une pensée comme celle-là? La femme était veuve, en plus sans mari, sans travail, avec son enfant, ils vont mourir. Lui, il se permet de prendre les gâteaux. Mais qu'est-ce qu'il est mauvais? C'est la même chose qui s'est passée avec la sœur Claudine, avec ses prémices des premiers jours qu'elle a mis ses pieds à l'église. Dis-lui de donner à Dieu, et Dieu se chargera d'elle. Des fois, des grands miracles n'attendent qu'une chose, l'obéissance. L'obéissance de la veuve et la victoire qui s'en suivit après sur les pouvoirs de l'argent et de l'égoïsme indiquent que l'entrée de la dimension de l'immortalité palpable est basée sur une audition claire de la volonté déclarée de Dieu ainsi que de l'obéissance radicale à ce que nous écoutons de la part de Dieu. C'est ainsi que Jésus a vécu, disant uniquement que il ne faisait que ce qu'il a vu le Père faire et il ne disait que ce qu'il a entendu Dieu dire. C'est ça la dimension des fils. Et c'est ce que nous devons voir. Voici ce que je voulais partager avec nous. Les parties qui restent, et nous continuerons dans la suite des temps. J'aimerais simplement que nous comprenions que nous vivons un temps, un moment que le Seigneur appelle temps d'Élie. Et dans cette saison où Dieu est en train de déverser l'esprit d'Élie, nous devons être de ceux-là qui comprennent que la grâce divine coule encore dans nos vies. Élie était un homme de la même nature que toi et moi. Il a prié Dieu pour qu'il n'y ait plus de pluie, et il n'y a pas eu de pluie pendant 3 ans et demi. Il va réactiver le ciel en priant pour que la pluie tombe des cieux. Et la pluie tombe. Fils et fille de feu, voici votre identité. Marchez-y avec foi. Développez une foi, une obéissance flexible, simple mais radicale. Obéissez à Dieu. Marchez avec le Seigneur et vous verrez si Dieu n'est pas un Dieu de grands miracles. Il a dit avant le retour de Christ, ces jours seront appelés les jours grands. Et les jours grands est qualifié et dit et vu comme étant un jour grand parce qu'il y a des grands enfants, des grands hommes de Dieu, des grandes femmes de Dieu, des personnes, des hommes, des étudiants qui percent et qui auront des grandes notes. Et c'est ce que nous déclarons et disons ici. Amen. Oui. Nous ne doutons pas. Nous croyons simplement à la grâce de Dieu et la grâce de la maison nous accompagne. Et c'est le Seigneur qui nous guide. Dans chaque combat, c'est lui qui nous précède. N'oubliez pas, la victoire sera la nôtre parce que c'est déjà certifié dans le ciel. Ce que nous vivons ne sont que des prémices de ce qui nous attend. Les promesses de Dieu ne changeront pas.
Centre de David Global. Thank you.